Vous écoutez Quoi de Meuf ? Le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture toutes les trois semaines. Je suis Mélanie Wanga.
Je suis Clémentine Gallo. On est toutes les deux journalistes.
Cette émission, c'est une conversation à deux dans laquelle on discute aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna.
C'est parti.
Hello à toi, auditrice ou auditeur. Cette semaine, on va aborder le thème ô combien controversé de l'humour, plus spécifiquement du stand-up. Et pour ce faire, on va bouleverser les usages, puisque oui, Quoi de Meuf, sans Clémentine qui se remet de maladie, on pense à elle, bisous. Quoi de Meuf a invité non pas une, mais deux humoristes, et zéro humoriste masculin. Bon, désolé, pas désolé, en même temps, ils sont partout, ailleurs, donc ça va, ils vont survivre. Salut les filles.
Hello.
Salut.
Bon, pour parler humour et rigoler, on l'espère, avec moi aujourd'hui, je suis entourée de Kiyoon Kim. Bonjour Kiyoon.
Bonjour Mélanie.
Donc Kiyoon, tu es humoriste franco-coréenne.
Exactement.
C'est ça. Et tu joues ton nouveau spectacle Tropique du Panda à Paris en ce moment.
Oui.
Voilà. Et je suis aussi entourée de Anne Dupin. Bonjour Anne.
Bonjour Mélanie.
Voilà. Et toi Anne, tu es membre du Love Steady Crew.
J'ai
pas
notamment.
Dû le dire. Tu veux le dire, vas-y.
Love Steady Crew.
Ouais, c'est voilà. Mieux.
C'est une troupe d'humoristes qui se réunit tous les mercredis, sauf le premier mercredi du mois. En gros, le public nous donne un thème et le mercredi d'après, on taffe toute la semaine et le mercredi d'après, on joue à partir du thème.
Voilà. D'accord. Ok.
Donc c'est très cool et c'est une autre façon de travailler parce qu'on s'entraide. Voilà.
D'accord. Et toi, Kiyoon, ton spectacle, tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, mon nouveau spectacle, Tropique du Panda, j'ai commencé samedi, c'était la première. Donc j'avais très peur, mais je n'ai pas vomi sur scène, donc j'estime que ça s'est très bien passé. Et voilà, et c'est tous les samedis, dimanches, au Théâtre du Gymnase à Paris. Voilà.
D'accord. Bah, félicitations.
Merci.
Alors, la tradition dans l'émission, c'est de parler de son actu personnel. Donc, alors, quoi de meuf pour vous dernièrement, les filles ? Anne ?
Bah, une actu, plutôt une réflexion, en fait. Par d'autres biais que le stand-up, je traîne pas mal dans les milieux vegan. Et ils ont raison, complètement. Mais j'ai un souci avec le bromage.
Et, bromage ?
Bah, c'est le fromage des vegans, quoi. Et
d'accord.
Autant, enfin, tu vois, leur fausse viande, elle est pas mal, leur faux sac en cuir, ils sont pas mal.
Ouais.
Mais le fromage, c'est pas possible, quoi. Et en fait,
c'est un problème de goût.
C'est dégueu. Enfin, c'est pas du fromage, quoi. Donc, j'adore. Ils sont là. Ouais, on aime manger. Ils arrêtent pas de dire qu'ils aiment manger.
Ouais.
T'es là, non. Ouais, alors vous aimez manger, vous aimez mettre des aliments dans votre bouche et les mastiquer, mais pas les goûter si vous aimez le fromage.
Ouais.
Après tout le reste, tout ce qu'ils font, c'est hyper bon. Juste ça, des fois, je me dis que j'ai envie de monter une asso anti fromage. Quoi, qu'ils appellent ça crème de noix ou je sais pas.
Et toi Kiyoon, ça va en ce moment ?
Bah oui, ça va. Mais c'est vrai que H24, mon actu, là, c'est un peu le début du spectacle. En plus, c'était très émouvant parce qu'à la première, il y a toujours un peu toute ta famille, tous tes amis.
Tous tes fans sont là.
Et donc, j'étais contente parce que mes amis étaient contents. Mais par ailleurs, j'ai un ami qui m'a envoyé un message dimanche après la deuxième du spectacle. Et il m'a dit, voilà, c'est une amie à moi qui était dans la salle. Elle m'a envoyé ce message. Donc, il m'a envoyé le message tel quel. Le message disait « J'ai adoré le spectacle, c'était super et ça m'a fait beaucoup de bien. » Entre parenthèses, je me suis séparée hier. Et franchement, c'est, je pense, le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait.
Spectacle.
Non, pas du tout.
Non.
Elle disait que ça lui avait fait du bien parce
qu'elle
venait de se séparer.
Mmh.
Et je pense que dans ces moments-là, on n'est pas forcément genre, hyper en forme, voire on est au bout de sa vie. Et en fait, elle est venue et ça lui a fait du bien. Et là, je me suis dit, mais mon
cool.
karma a pris 10 000 points. Quoi.
C'est super.
Donc ça m'a fait kiffer, ouais.
On va parler d'humour, on va parler de stand-up. Première question que j'aimerais vraiment vous poser à toutes les deux, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de l'humour et du stand-up et comment vous avez commencé, Kiyoon ? Quelle a été l'étincelle ?
L'étincelle, non mais c'est un moment très précis donc je peux très bien en parler, c'est qu'avant donc j'étais avocate et quand j'étais avocate j'ai passé un concours d'éloquence, j'ai dû faire un discours de 10 minutes, j'ai fait des blagues, les gens ont rigolé. Et en fait, d'avoir tout un public qui rigole, ça a été une joie extraordinaire, complètement renversante et bouleversante. Et je suis sortie de là en me disant, mais Florence Forestier, elle doit avoir une vie de rêve, c'est ça son métier, quoi. Et là, je me suis dit, non, mais ni une ni deux, il faut le faire.
Donc, t'as même pas attendu de savoir si t'avais réussi le concours ou...
Non. Non, c'est pas ça, c'est qu'en tout cas, l'envie est née de,
ouais.
à ce moment-là, ouais.
D'accord, ok.
Et après, il y a eu un petit process de maturation... avant de se lancer, évidemment.
Ça a pris du temps entre le moment où tu as eu l'envie et le moment où ça s'est concrétisé. Ça a pris combien de temps à peu près ?
Bien un an, le temps de me préparer, quoi. En fait, je me suis fait un rétro-planning. Non, ouais, je sais, ça fait peur. Non, c'est pas que je suis psychopathe, c'est juste qu'en fait, je savais que sinon, bah, j'avais quand même très peur. Il fallait quand même tout lâcher. C'est 10 ans d'études, c'est toute ma carrière, c'est un peu toute ma life. C'est un peu, bon, quitter mes parents aussi, parce que bon, je pensais clairement qu'ils allaient plus jamais m'adresser la parole. Donc, c'était quand même un choix un petit peu engageant. Donc, j'avais quand même quelques réticences à le faire. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon spectacle, de tous les mécanismes de défense qui se mettent en place pour t'empêcher de faire ce dont tu as envie. Je me suis fait le rétro-planning pour m'obliger.
D'accord. Et tu l'as suivi.
Exactement. Et j'ai débranché mon cerveau et je me suis jetée, quoi.
Un modèle pour nous toutes. Alors, et toi, Anne, d'où c'est venu?
Alors,
cette envie de faire rire.
Bon, moi, j'avais jamais fait de scène et j'ai vu le film Man on the Moon, en fait, avec Jim Carrey, qui interprète le rôle d'Andy Kaufman. C'est un film réalisé par Milos Forman. Ça faisait toutes les refs.
Hello, c'est moi, Andy.
Je veux être la plus grande star du monde.
Sur scène, tu as l'air d'un débutant.
Personne ne l'a fait avant moi.
J'ai vraiment aimé votre numéro.
Je ne suis pas un comique, je ne recherche pas le rire facile.
Et en gros, j'ai vu ce film où le mec monte sur scène, il ne fait pas vraiment rire les gens, mais il a l'air super bizarre et super perché, et du coup, tu es là, est-ce que c'est un personnage ou pas? Moi, dans la vie, bon là, je me suis vachement normalisée, mais...
Tu t'es calmée?
Je suis très perchée, les gens ont toujours dit que j'étais perchée, voilà, et c'était vraiment une source de souffrance. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah mais on peut apprivoiser ça, en fait. Enfin, vraiment, pour moi, l'idée, c'était de monter, de raconter des trucs fous, et que les gens se disent, est-ce que c'est vrai? En fait, c'est juste parti de ça, voilà.
D'accord.
Et après, en fait, il faut savoir que le stand-up, c'est quand même plein de techniques théâtrales, d'impro et tout, ouais, que moi, j'avais pas du tout naturellement.
D'accord. Et t'as commencé comment alors?
En fait, au début, j'ai dû faire 3-4 ans de cours d'impro. Enfin, moi, au début, je pouvais pas monter sur scène, quoi. J'avais les yeux fermés, les poings fermés. Ça a été très compliqué. Je pense que c'était un peu psychologique aussi. Ça, j'ai commencé il y a 3 ans sur un plateau qui n'existe plus. Voilà, je suis montée sur scène. Et en fait, quand tu commences, ça marche super bien. Plus tu travailles, plus tu précises, plus c'est dur.
D'accord.
Enfin, c'est mon expérience.
Plus tu montes en difficulté.
Ouais, voilà. Il y a des gens qui vont te raconter genre des bits de début et des progressions. Et moi, c'est plutôt l'inverse. La première fois que j'ai fait un petit plateau et ça a super bien marché, c'était mortel. Et après, ça dépend des fois, quoi.
Toi, Kiyun, tu l'as ressenti différemment?
Non, moi, c'est un peu le contraire, ouais.
Ouais,
parce
ça
que
comme ça. Ouais.
Parce que en tout cas j'ai constaté que l'écriture de ce nouveau spectacle avait été quand même beaucoup moins pénible que le premier. Le premier, ça a été hyper dur d'écrire. Bah c'est, bah je sais pas, moi quand je débute, je suis pas très bonne, quoi. Et là c'était quand même plus easy, donc c'était très agréable.
Ouais, peut-être que tu t'imaginais plus déjà le dire sur scène que la première fois.
Voilà.
Ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est que vous nous expliquiez au jour le jour, dans le cadre de votre travail d'humoriste, comment ça se passe en fait. Je sais que toi, Kiyun, par exemple, en ce moment, tu es en train de faire ton spectacle, mais il y a des périodes où tu n'es pas sur scène, et du coup, tu es surtout sur l'écriture, c'est ça?
C'est ça.
D'accord. Donc,
exactement. En septembre, j'ai commencé à écrire le spectacle, le nouveau spectacle. J'ai arrêté Jaune Bonbon et j'ai préparé le nouveau spectacle. J'ai commencé à écrire des choses. Et en fait, il s'est passé quelque chose au mois de décembre, c'est que je suis allée voir une kinésiologue qui m'a fait une espèce de déclaration.
Ah, mais tu nous spoiles ton spectacle.
Ah bah, pardon, oui, non, mais parce que c'est vraiment particulier ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'avais déjà une trame, un fil conducteur et des morceaux de spectacle déjà écrits. Et quand je suis allée voir la kinésiologue, en fait, ça a tout chamboulé. Et donc, j'ai discuté avec Samuel Doux, qui est un ami qui est aussi mon conseiller artistique sur ce spectacle. On en a beaucoup parlé. Je lui ai montré les textes que j'avais déjà écrits. Il m'a dit, mais il faut que tu parles de ce qui s'est passé avec le kinésiologue, parce qu'en fait, c'est clairement ça, le nœud de ton spectacle. Et donc, j'ai tout réécrit en 10 jours, bam, en accent tout là-dessus.
Du coup, si on va voir le spectacle, on pourra savoir ce qu'est un kinésiologue.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Exactement.
Suspense.
Ouais, c'est pas en disant le mot kinésiologue qu'on spoil le spectacle. Personne ne sait ce que c'est.
C'est ça. Mais ça me donne très envie d'aller le voir.
Et toi, Anne, du coup, il y a une préparation pour quand tu vas, avant que tu ailles au
Bélis.
Comment ça se passe?
Donc, moi, du coup, je travaille toujours à côté.
Ouais.
Donc, c'est un autre. Et pour me préparer pour le spectacle, du coup, comme c'est un peu un travail sur un personnage, je suis obligée de re-regarder des vidéos de moi pour me remettre dans le personnage.
D'accord.
Tu vois, en fait, moi, je fais un boulot hyper sérieux à côté. Donc, du coup, la journée, je suis genre super stricte et c'est un peu ma difficulté. C'est qu'il y a certains soirs où je suis pas...
Il faut switcher. Et...
Ouais. Enfin, quand je dis un personnage, c'est un personnage qui s'en met dans la réalité. Donc, c'est pas... Enfin, je suis pas en déguisement, hein.
Mais
donc,
toi-même.
Faut me remettre dans le truc. Faut me remettre dans le truc. Faut que je me rappelle des sensations, des blagues, des moments pour me remettre. C'est un peu la difficulté. Des fois, ça m'arrive de monter sur scène et c'est là que ça marche pas. C'est quand
tu penses aux impôts.
C'est ça, ouais, complètement.
On va passer aux questions qui fâchent, le féminisme et vous. Vous vous considérez comme féministe? Par exemple, toi, Anne, tu te considères comme féministe? Est-ce que ça a une influence dans ce que tu fais dans l'humour? Est-ce que tu as un humour féministe?
Oui, je pense. Mais moi, je suis, comme plein de gens aussi, une féministe de la dernière heure. C'est-à-dire que moi, j'étais pas féministe il y a 4 ans.
Qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans?
Il n'y a pas d'événement, mais c'est vraiment... Moi, à la base, j'ai un bac S, je suis super grande. Donc, si tu veux, quand je me fais dominer par le patriarcat, je les toise quand même, tu vois, du regard. Je sais pas. Donc, il y avait un truc où je me disais, ouais, non, ça va. Puis des fois, quand même, ça me permet de me tirer mon épingle du jeu, etc. Voilà. Et en fait, c'est vraiment une accumulation d'expériences et aussi, effectivement, le mouvement qu'il y a eu, pas forcément MeToo, mais tu vois, ce qui a commencé il y a 4 ans, où j'ai vraiment commencé à me dire, non, mais, enfin, tu sais, à déconstruire, quoi. Mm. Mais c'est assez récent. Enfin, d'accord. À me dire, oui, pourquoi est-ce qu'il faut que je pèse 20 kilos de moins que ma taille? Pourquoi...
Pourquoi je peux payer pareil que les hommes?
Ouais, alors... Moi, j'ai toujours été payée pareil que mes collègues.
Bon, bah, tant mieux. C'est bien.
J'ai pas ce problème-là. Et maintenant, dans mon boulot, en fait, j'ai un nouveau taf. On est tellement mal payés qu'il y a que des femmes qui acceptent de travailler là. Donc, j'ai plus ce problème. Ouais. Ouais, tu vois, c'est plein de situations. Et surtout, ouais, effectivement, des chefs vraiment en mode MeToo, des trucs comme ça. Puis, ouais, plein de déconstructions.
D'accord.
De oui, pourquoi est-ce qu'il faut pas faire peur aux hommes, tous ces trucs-là en fait, tous les trucs intériorisés et qui sont beaucoup dénoncés en ce moment et que je me suis aperçue que j'intériorisais.
Mmh. Et est-ce que t'en parles dans tes spectacles est-ce que tu fais des petites allusions? Est-ce que des fois tu te moques un peu, bah justement du patriarcat?
Non, parce que moi dans mon dernier spectacle, enfin que j'avais fait, je me moquais plutôt des féministes en fait.
Ah. Mais tu es une traîtresse à la cause donc.
Et donc là, je me moquais pas des féministes. En fait, je me moquais de deux choses. Je me moquais de moi quand je pars dans un discours féministe et que je deviens complètement hystérique. Et je pense que c'est vraiment le cas. Donc je me faisais dans un espèce de rôle de féministe complètement taré. Mais je crois que tu m'as déjà vu faire ça en impro il y a 1000 ans. Donc vraiment tout ce questionnement de comment être le féminisme. Parce que moi, d'un autre côté, je suis quand même maladroite. J'ai pas le sens de l'orientation. Donc tous ces trucs où tu te dis, ah, je suis une mauvaise féministe. Il y a eu un livre d'ailleurs là-dessus.
Bad Féministe de Roxane Gay.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm, et là, je me suis beaucoup reconnue dans ce livre. Donc dans mes spectacles, c'était plus ça. C'était comment être féministe. Et comme aujourd'hui, je trouve que le mouvement est super fort, les gens sont hyper sensibilisés. En fait, j'ai pas envie de faire comme pour le bromage là et d'être une ennemie à la cause.
Une ennemie intérieure.
C'est ça, une ennemie. J'étais pas une ennemie, c'était plus que je questionnais le truc. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est tellement important que j'ai pas envie de perdre du temps à questionner le truc. J'ai envie qu'on avance.
On peut se poser des questions, c'est toujours bien de se remettre en question.
Il y a
tout,
plein de féminisme et tout ça.
Il y a aussi pas mal de trucs à faire à l'extérieur. Donc c'est
ça.
Et toi, Kiyoon, dans ton spectacle, il y a pas mal quand même de. Mais c'est même pas des allusions, mais c'est carrément des prises de position sur le féminisme.
Oui, alors en fait, j'en parle parce que quand j'avais fait mon premier spectacle, je racontais quelque chose qui était assez très très personnel, c'est que quand je suis née, ma mère croyait, espérait que je serais un garçon. Et elle a été très déçue quand je suis née et elle m'a dit, on m'a dit que tu étais une fille à la naissance, on t'a apporté, et l'infirmière m'a dit que tu étais une fille, j'étais très déçue, mais comme tu as souri, je t'ai pardonnée. D'accord? Voilà, et ça c'est
dur,
une histoire
dès le début.
Non mais c'est horrible. Et en fait, elle m'a répété cette histoire mais l'air de rien, un peu tu sais comme une anecdote rigolote pendant genre 25 ans. Et pendant 25 ans, je disais rien et je pense que ça a été juste imprégné en moi quand j'étais petite de OK, donc je suis moins bien qu'un garçon. Donc, il va falloir ramer pour mériter, en fait, l'amour de ma mère. Mmh. Et donc, j'ai un peu, mais pas de façon consciente, mais passé ma vie à essayer d'être le garçon qu'elle voulait. Et d'ailleurs, elle-même m'a beaucoup élevée comme ça. Par exemple, je n'avais pas le droit de pleurer. Et elle valorisait énormément. Elle disait au monde entier que non, Kiyoon ne pleure jamais.
Ah ouais.
Ouais, c'était un peu chaud, quoi. Et donc, bon, là, on va spoiler le spectacle, hein, mais c'est comme ça. C'est qu'en fait, la kinésiologue, pourquoi ça a changé un peu ma vie, c'est que je suis allée la voir et elle m'a dit, en fait, nous avons un problème. Vous êtes un homme dans un corps de femme. Et ce truc-là a vraiment, bouleversé un peu ma vie, quoi. C'est-à-dire que j'ai compris beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie à partir de là.
D'accord.
Et effectivement, moi, quand on me parle, là, vous savez, il y a cette règle de grammaire là, qu'on apprend à l'école. Là, le masculin l'emporte sur le féminin. Moi, ce truc-là, en fait, c'est viscéral, c'est épidermique. Je l'entends, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête, et Dieu sait qu'ils sont longs, mes cheveux. Mais donc, Oui, quand on me parle de féminisme, c'est même pas est-ce que je suis féministe ou pas, c'est qu'en fait c'est ma vie entière, je l'ai vécu, pour essayer de prouver que non, c'est pas une tare d'être une fille en fait.
Par rapport à la règle de grammaire dont tu parles, ouais. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est un abbé qui l'a inventé, un abbé grammairien, dont je ne citerai pas le nom parce que je m'en souviens plus, bien fait pour lui. Et en fait, il voyait justement que ben, les gens pratiquaient l'écriture inclusive et il disait, mais attendez, c'est le gros bazar, allez, je décide que au 14e siècle, ça y est, le masculin emporte sur féminin, donc c'est totalement arbitraire, et le mec a dévoyé la langue française, donc voilà, c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui.
Contre le patriarcat,
voilà,
tout à fait.
Pour l'écriture inclusive. Je propose qu'on parle de milieu de l'humour, parce qu'on a beaucoup entendu parler avec les différentes affaires MeToo, milieu du cinéma, on a entendu parler de pas mal de choses, milieu de la télévision et tout. Moi d'abord, je voulais juste revenir sur un truc, d'ailleurs que Kiyun, tu évoques dans ton spectacle, qui est la légende selon laquelle les femmes ne sont pas drôles. Mmh. Alors j'ai fait quelques recherches, j'ai retracé un article horrible de Vanity Fair datant de 2007, écrit par Christopher Hitchens, où en gros, le mec il te déroule sur 5000 signes, pourquoi c'est un fait, les femmes sont moins drôles que les hommes, ou voire même pas drôles du tout, et quand elles essaient, elles sont complètement nul. Et c'était un article à l'époque qui avait fait pas mal de bruit. Je sais que Tina Fey avait répondu en lui disant mais attends, c'est pas parce que t'aimes pas quelque chose que ça n'existe pas. Moi par exemple, j'aime pas la bouffe chinoise, mais je dis pas que ça existe pas. Donc l'humour des femmes, ça existe quoi.
Maybe men and women find different things funny. Maybe things that men like are boring to women.
Et je trouvais ça vraiment excellent. Okay, je voudrais bien avoir votre avis sur ça.
C'est génial.
Kiyun, vu que t'en parles dans ton spectacle.
Oui, moi j'en parle parce que en plus c'est un truc évidemment que il m'arrive d'entendre. À des dîners autour avec des gens, etc. Cette espèce de mythe que les filles sont moins drôles que les garçons, qui, bon, évidemment, n'est pas vrai, enfin, c'est absurde. Non, par contre, ce que je pense être peut-être une explication de cette espèce de fausse légende qui circule, c'est que je pense clairement que les garçons, quand ils sont plus jeunes, ils sont un peu obligés d'être drôles, parce qu'en fait, c'est la seule façon qu'ils ont de parler à une fille sans qu'elle se mette à pleurer. Et donc, peut-être tout simplement que c'est pour cette raison-là qu'ils sont obligés de développer l'humour. Peut-être moins que les filles qui, elles, n'ont pas besoin de ça pour séduire, quoi.
Puis peut-être que la société met en valeur les filles sur d'autres plans, quoi. Genre, t'es jolie, tu travailles bien à l'école.
Exactement.
C'est pas drôle, quoi.
Oui, exactement. Mmh. Encore une fois, c'est une construction sociale, un mythe, qui fait qu'on dit que, soi-disant, l'humour, ce serait un truc de garçon, alors qu'en fait, je veux dire, on a tout un cerveau, donc on est toutes capables d'être drôles, voilà.
Ouais. Et toi, on t'en pense quoi?
Alors, pareil, peut-être la piste par rapport au milieu de l'humour, c'est qu'effectivement, surtout peut-être sur le stand-up, on est moins nombreuses. Moi, je pense, c'est parce que, surtout sur le stand-up, qui repose beaucoup sur, en général, du vécu, parfois du quotidien, et de l'anecdotique, je pense que les femmes n'osent pas prendre un micro et dire « bah voilà, ma vie quotidienne, elle est comme ça ». Parce qu'il y a plein de femmes qui font du théâtre, qui font des personnages, etc. Parce que quand elles veulent monter sur scène, elles veulent avoir l'air un peu sensationnelles. Parce qu'on est des femmes, donc on doit... Enfin, on est des femmes. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il faut que j'en fasse des caisses, qu'il faut tout donner, etc. Et je pense que c'est ça qui se retrouve, en tout cas sur le milieu stand-up. C'est que, ouais, il y a moins de femmes qui se disent « Tiens, je vais raconter ma vie anecdotique, personnelle, ça va intéresser des gens. » Alors que les mecs se disent que ça va intéresser des gens. Voilà.
Ah, ils ont plus confiance en eux sur ce plan-là.
Ça.
Anne, toi, tu disais que tu penses qu'il y a une différence dans le marketing de l'humour féminin et l'humour masculin dans les spectacles, comment ils sont présentés.
Oui, ça, c'est sûr. Après, on pourra en parler des heures. Moi, ce que j'avais... en fait, ce qui m'avait un peu interpellée, enfin, qui m'a intéressée, je trouve qu'aujourd'hui, on markete pas mal les spectacles féminins trash pour que les gens viennent les voir. Par exemple, en fait, j'ai lu un article donc dans un blog que je vous recommande qui s'appelle Le Spot du Rire, qui est en fait c'est une jeune femme d'ailleurs qui va avoir énormément de plateaux. Donc si vous voulez connaître un peu tous les plateaux sur Paris, vous avez le mix quoi. Et du coup, elle avait fait un article par rapport à un reportage de France 2 qui s'appelle Humour les femmes osent tout, et en fait qui présentait plusieurs spectacles féminins comme étant des spectacles super trash.
C'est vrai que maintenant on voit arriver les jeunes femmes qui avec le même entrain. Et ben vont au fond saccager les plates-bandes qui étaient toutes mignonnes et toutes jolies avec des jolies petites fleurs qui dépassaient pas.
Et donc dedans, t'as le spectacle d'une fille qui s'appelle Marion Mésadorian, qui est un spectacle très drôle que j'ai vu. Et c'est pas trash du tout, quoi.
Mais qu'est-ce qu'ils appellent trash?
C'est genre les blagues de cul, à fond, parler de ses règles. C'est un grand tabou quand t'es une femme humoriste. Mmh. C'est interdit de parler de ses règles.
D'accord, c'est bon à savoir.
Je dis ça parce que sur les plateaux, on a toujours la réputation de tout parler que de ça. J'ai jamais vu qu'une femme en parlait. Enfin, il paraît qu'on parle toutes de... Si, un petit peu des fois, mais on parle toutes de nos règles et de Tinder, voilà. C'est un, pour moi, c'est un mythe aussi.
En même
aussi.
Temps, les mecs, ils parlent tout le temps de masturbation et de foot. Donc
on est bien d'accord.
Ça va, quoi.
Exactement.
Chacun ses thèmes de prédilection, quoi.
Et donc oui, je pense qu'il y a un filon comme ça de spectacles trash, qui sont d'ailleurs super cool, quoi. Mais ce que je trouve fou, c'est pour essayer de vendre des spectacles, et comme on ne sait plus, on a besoin de catégoriser les femmes, et surtout de les packager. Ah oui, c'est ça qui est... On package pas mal les femmes. Ils ont mis ce spectacle, que j'ai vu, qui est vraiment...
Spectacle de meuf, venez, ça va parler...
Ouais, ça va être trash, alors que le spectacle n'est pas trash.
Parce qu'en fait, quand tu parlais des spectacles marketés comme trash, moi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est Amy Schumer, qui faisait beaucoup, qui parle beaucoup de ses histoires de cul et tout, ce qui est tout à fait... Enfin, moi, je ne juge pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai vu aussi une tendance, beaucoup, comme je disais, de voir, par exemple, des affiches dans le métro avec des filles qui présentent leur spectacle et qui sont, pas nues. Elles posent pas nues, mais elles n'ont pas de vêtements. Et puis, elles sont coupées au niveau des seins et tout. Et premier spectacle, venez voir,
tu vois. Elles sont pas nues, mais elles sont coupées au niveau des seins.
Ah, d'accord.
Non, mais un peu le truc pour venez voir le premier spectacle de machin. Et c'est vrai que chez les mecs, je voyais plutôt les mecs en costard à chaque fois. Ouais. Donc, je me disais, c'est bizarre quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc, vieux mec bedonnant derrière ça?
Oui, mais bon, si elles sont toutes nues, que ça leur fait plaisir et que ça correspond à leur spectacle, qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Hein,
mais c'est quand même intéressant de remarquer cette différence entre
qu'il y a moins d'hommes nus. Oui, je sais bien, mais...
Moi, je veux plus de mecs nus dans ce cas. Ouais.
Oui, c'est ça, revendiquons des hommes nus, des hommes plus musclés, des hommes, des humoristes en mode le dieu du stade, quoi.
Attends, mais attends, tu viens de lancer un concept.
Bien sûr, on va leur faire des petites catégories. Alors, les plus beaux humoristes de France, les plus musclés, les plus grosses tapettes de chocolat, les plus gros pecs, et ce sera formidable, l'égalité.
Anne, j'avais une question sur les plateaux dont tu nous parles souvent. Est-ce que tu trouves que les femmes et les hommes sont traités et accueillis différemment sur les plateaux? Donc, si tu peux juste réexpliquer ce que c'est un plateau, comment ça fonctionne?
Oui, un plateau, en général, c'est ça se passe souvent dans un bar ou dans un théâtre. Et l'idée, c'est que tu as 6 artistes qui présentent chacun 10 minutes de leur spectacle ou qui testent. C'est assez varié, quoi. Et donc, souvent, sur les plateaux, il n'y a qu'une seule femme.
D'accord.
Et donc, quand on t'accueille, on te met une petite musique, genre Zouk Love et tout. Et on fait, et maintenant, un instant de douceur avec la seule femme de la soirée.
Ah ouais, souligne bien en plus.
Je caricature, mais pas vraiment. Mmh. Et t'arrives comme ça.
Ah ouais, d'accord. C'est vraiment le phénomène de la schtroumpfette parmi les mecs.
Ouais, mais de fou.
Voilà, et t'as essayé d'en parler des fois, dire non?
Non, parce que moi j'essaye de me faire bien voir, donc j'en parle là. Mais tu vois, j'ai pas envie de me... Je suis contente qu'on me laisse jouer, quoi.
Ouais.
Je devrais pas dire
c'est
ça.
C'est toujours ça,
mais...
c'est que quand t'es une femme...
Et une fois de plus, c'est la même chose qu'avec les plateaux, c'est que, en fait, je pense que les hommes, c'est donc forcément un homme qui t'annonce et qui dit ça, ils font pas ça. En fait, moi, je le vis mal, parce que moi, je me ressens
intentionnel.
En fait, j'aime pas spécialement qu'on me présente avec une appartenance à un genre, tu vois. Je préférais qu'on dise la personne la plus déjantée ou j'en sais rien. Hein. Du coup, je comprends pas pourquoi on m'assimile à ça aux femmes. Mais je pense que le mec qui lui m'annonce, lui, il fait ça plutôt pour me mettre en valeur, pour faire regarder, ça va être différent.
L'histoire d'un grand malentendu, encore une fois.
Voilà, c'est ça.
Même si c'est pas intentionnel.
C'est une bonne intention.
Si c'est pas intentionnel, c'est quand même, tu vois, sexiste, quoi. En fait, c'est le sexisme. En règle générale, même quand ça vient pas d'une volonté de nuire ou d'une volonté d'être sexiste, il y a quand même les effets qui se font ressentir derrière, tu vois. Donc malgré tout, t'arrives quand même avec ta musique Zouk Love sur scène, quand même.
J'aime
bien Zouk Love.
Moi aussi,
ça me fait trop plaisir qu'on mette du Zouk Love.
Encore une fois, pourquoi? Juste pour
parce que j'ai des goûts de chat.
Mais non, mais c'est que c'est toujours quand j'y souffre, pour caricature un peu, mais non, mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que on est quand même là de plus en plus nombreuses, donc ça arrive maintenant qu'il y ait vraiment des plateaux, que ce soit la parité et tout, c'est trop cool. La dernière fois, j'étais sur un plateau, il y avait un mec qui est là depuis longtemps, qui fait beaucoup de plateaux et tout ça, et quand je suis montée sur scène, j'étais genre la quatrième fille de la soirée, et il a fait « Et maintenant, on accueille la quatrième femme de la soirée !» Alors qu'on était 8, en fait, donc...
Peut-être que le mec était débile, non?
Ouais, c'est ça, je sais pas. Je me suis dit, c'est tellement intériorisé qu'il nous compte, quoi.
Ouais. elles sont beaucoup, là, ce soir.
Ça, c'est surtout pour montrer qu'il s'est compté jusqu'à 4, en fait.
C'est pas...
Moi, j'avais une question sur le fait que en ce moment, je lis beaucoup et j'entends beaucoup qu'on peut plus rire de rien et que le politiquement correct nous a tous tués et que l'humour est mort. Est-ce que c'est vrai, Kiyoon ? Dis-moi.
Je suis pas du tout d'accord avec ça.
Ah bon, pourquoi ?
Je vois l'idée, effectivement, il y a eu quand même des choses. Bon, les gens sont un peu tendus, etc., sur certains sujets. Bon, après, moi, ça me dérange pas plus que ça. Enfin, faut évidemment pas réduire les spectacles, l'humour de certaines personnes et les réduire à une blague. Qui est un peu limitrophe, quoi. Par contre, je trouve que le fait qu'on se soucie aujourd'hui de ne pas blesser les gens, je trouve que c'est un énorme progrès. Parce qu'en fait, de dire on peut pas rire de tout, ça va, quoi. En fait, il y en a jusqu'à l'infini, des blagues sur tous les sujets de la Terre, jusqu'à ta mort, il en restera encore. Donc, t'as qu'à faire des blagues qui ne blessent personne et qui seront quand même drôles. Donc, pourquoi est-ce que tu t'acharnes à faire des blagues qui font chier les gens, quoi. Enfin, c'est toujours le même principe, c'est que la liberté d'expression, tout le monde est là. La liberté d'expression, c'est hyper adolescent de croire que, évidemment, qu'il y a des limites à la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est pas de tout dire. La liberté, c'est pas de tout faire. Mmh. Et moi, quand j'entends ce truc-là, ça me fait penser, vous savez, quand on était ado, cette légende qu'il y avait au lycée de ah, il y a un gars, il a passé son bac, le sujet de philo, c'était l'audace, c'est ça. Et le mec, il a eu 20 sur 20 au bac. Non, alors les gars, en fait, cette histoire n'est pas vraie.
C'est un fake.
C'est une légende, c'est un fake. Donc arrêtez de croire des trucs comme ça quand vous aviez 12 ans. Non, le monde n'est pas comme ça, en fait.
Ouais, puis la liberté d'expression, c'est pas pouvoir tout dire et qu'en face, les gens ferment leur gueule, quoi. En fait, la liberté d'expression, c'est pouvoir tout dire, mais qu'on puisse le dire, mais en fait, ce que tu viens de dire, c'est bien sûr, si ça blesse les gens,
dire on s'arrête et puis c'est tout, on s'excuse et puis on s'arrête, c'est tout. En fait, ça s'appelle la délicatesse, c'est un principe dans la vie de tous les jours. Donc, je vois pas pourquoi on l'appliquerait pas sur scène quand on parle en plus devant 200 personnes ou 300 personnes ou 20 000 personnes. Je pense qu'on a d'autant plus de responsabilités quand on s'adresse à autant de gens.
Oui, d'autant plus quand on est une figure connue.
Et surtout quand on fait de l'humour, parce que l'humour, on le sait très bien, c'est une façon quand même de convaincre les gens, de persuader les gens et de leur mettre des idées dans la tête d'une façon très directe et très subtile sans qu'on te voie venir, en fait. Tu vois, l'idée, elle passe beaucoup plus facilement avec l'humour. Et donc, on met des choses dans la tête des gens, donc on a une responsabilité dans ce qu'on dit.
Dernière petite question vraiment qui me tient à cœur. Kiyoon, sur le fait d'être une femme française d'origine asiatique en France, qu'est-ce que tu penses de la place des minorités dans l'humour en France ? Parce que contrairement au cinéma ou à d'autres milieux, je trouve qu'il y a quand même pas mal de minorités, notamment issues du Maghreb et tout, qu'on voit qui sont des stars en fait en France. Et je trouve ça vachement intéressant et j'aurais bien aimé avoir ton avis sur le sujet, ton expérience.
Ben oui, non, je pense que c'est super. Ça a été lancé, je pense, beaucoup par Jamel Comedy Club, etc. Et du coup, il y a toute une génération d'humoristes hyper talentueux qui ont parlé beaucoup de leurs origines, etc. Et donc, c'est formidable parce que ça a permis de t'en parler, de faire connaître, de faire tomber un peu tous les préjugés, les espèces de vieilles idées reçues, etc. Et moi, étant d'origine coréenne, en fait, dans mon premier spectacle, j'en ai parlé, évidemment, mais j'en ai parlé... Non pas parce que je me sentais d'être obligée de représenter mes origines, l'Asie, etc. Mais c'est juste, je me suis dit, en fait, j'arrive, les gens ne me connaissent pas, j'arrive sur scène, ils me voient. Et c'est physique, en fait. Et j'en ai parlé, mais de la même manière, j'aurais parlé du fait que j'étais blonde, si j'étais blonde, etc. Après, là, dans mon spectacle, j'en parle pas du tout. Mais il y a d'autres choses qui se voient physiquement.
Il y a un moment où tu parles coréen, quand même, dans le spectacle, que j'aime beaucoup. Hein.
Ah oui, ouais, c'est la seule phrase que je dis, mais c'est en rapport plutôt avec le fait que la problématique homme-femme, en fait. Et le fait que je suis, en fait, un peu transgenre maintenant.
Tout à fait.
Et puis moi je trouve ça, enfin en fait, je trouve ça vraiment intéressant d'entendre justement. Je sais que les gens n'ont pas nécessairement envie de dire oui, alors mes parents sont de telle origine, mais moi je trouve qu'à chaque fois c'est une porte, une ouverture, parce que j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les séries télé, et malheureusement en France on est absent, quoi. Et là du coup, quand je vais dans un spectacle et que je vois une humoriste asiatique qui parle de ses origines, je suis là, ouais.
Le moment pop culture.
Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est aussi qui sont vos idoles de l'humour. Est-ce que vous avez un top des personnes les plus drôles de la Terre qui vous inspirent ? Est-ce que vous avez des séries, des films qui vous tiennent à cœur, qui vous font rire ?
Alors globalement, il faut savoir que moi, j'ai très bon public, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je rigole à tout un peu comme une otarie, tu vois, il faut me mettre au premier rang, j'anime toute la salle, hein, il faut le savoir. Donc globalement, je vais voir tous les spectacles d'humour, j'adore en fait, tout me fait rire, toutes les sortes, même les trucs qui évidemment sont des trucs que je ferai jamais, des personnages ou des propos que les gens tiennent que moi, je ne ferai jamais, mais ça m'empêche pas de rigoler. Et dans les humoristes que j'adore, alors là, nous sommes sur une émission féministe, donc nous allons parler des femmes.
Moi, aux États-Unis... Jean-Marie Bigard, vas-y.
Jean-Marie Bigard, lâche de salope. Non, mais merci, ça va aller. Non, aux États-Unis, moi j'adorais Sarah Silverman et Tina Fey. En France, il y a plein de filles qui sont géniales. Moi j'avais commencé, j'étais une ultra fan de Florence Foresti quand elle avait fait son sketch Les garçons et les filles, ça m'avait fait mourir de rire.
Quoi, ça sert que je me lave, je sors pas aujourd'hui. Mais ça fait quand même 4 jours que t'es pas sortie.
Et après, il y a évidemment deux humoristes que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup Claudia Tecbo.
Chachotte comme vous êtes. N'est-ce pas les filles que les mecs, c'est des chachottes? Ben ouais. N'ayez pas peur les filles, c'est moi qui ai le micro ce soir.
Amel Chabi, je suis allée voir son spectacle il y a quelques mois, qui était fantastique, qui est à la fois très drôle, très émouvant, hyper intelligent. J'adore cette fille, elle est géniale.
Sur ces spectacles-là, de toute façon, on mettra tout dans les notes de l'épisode pour que, chers auditeurs et auditrices, tu puisses tout retrouver et cliquer et aller les voir. Et toi, Anne, du coup?
Bah moi, je suis vraiment une fan de toutes les séries justement un peu improvisées là, qui ont été tournées dans les années 2000 aux États-Unis, type The Office, Parks and Rec, par exemple. J'adore.
J'allais citer Amy Poehler.
Voilà, on avait oublié Amy Poehler.
Elle est trop bien.
Donc elle est trop bien. Justement, il y a vachement de féminisme là-dedans dans Parks and Rec, parce que c'est une nana hyper décidée et tout. Elle a toujours la motivation et elle s'en prend plein la gueule. Donc c'est hyper drôle. Et puis en une phrase, c'est une femme qui travaille donc aux États-Unis dans une mairie au département des parcs et jardins. Et donc elle, son but, c'est d'un jour, c'est d'être Hillary Clinton. Et elle est dévouée à sa communauté, mais de façon exponentielle. Alors que tout le monde s'en fout, tout le monde la déteste. Elle vit dans une ville de beauf qui adore un petit poney. Comment il s'appelle le poney? Little Sebastian.
Ah
voilà.
Oui,
et elle est entourée de collègues tous plus bracassés les uns que les autres qui profitent de leur système, du système des fonctionnaires, quoi. Et donc, c'est des façons de filmer qui sont super drôles parce qu'en gros,
il y a
un script. Ouais, voilà. Et c'est cool parce que je pense que les scripts sont écrits, mais qui sont vachement rejoués et retournés. Et ça, c'est des méthodes de travail qu'on a, j'ai l'impression, pas énormément en France, où que les gens improvisent un peu à partir du script et on garde les choses. Voilà. Ouais. Effectivement, c'est tourné comme un faux documentaire. Donc voilà, il y a ça. Et en spectacle, moi j'aime forcément pareil Sarah Silverman, mais moi j'aime beaucoup Chelsea Peretti.
My fantasy of what it's like to be a guy is you just wake up in the morning and your eyes open and you're like, I'm awesome. People probably want to hear what I have to say.
Qui est une humoriste américaine un peu what the fuck, ouais. Moitié perso,
qui joue aussi dans
ça.
Une série Brooklyn Nine-Nine.
Oui, et après, alors en France, j'adore Shirley Soignon, forcément.
Je vais faire un petit sondage. Par applaudissement, j'aimerais savoir quels sont les hommes qui assument de pleurer en public. Ça a mis du temps, hein.
Blanche Gardin.
Je suis tombée dans les écrivains féministes, Simone de Beauvoir, tout ça, je connaissais pas. Ça console beaucoup de lire des écrivains féministes, de voir qu'il y a des femmes qui ont eu des vies riches, sans pour autant avoir ni de mari, ni d'enfant.
Et après, moi, je m'inspire beaucoup de Judith Godrèche, voilà.
Ah d'accord,
c'est
ton modèle.
Il faut que je crée une association pour l'exhumer de l'anonymat. Et ouais, je l'adore, je la trouve super drôle.
Moi, je veux juste citer une série que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, mais qui pourtant date des années 90. Les gens parlent beaucoup de Friends, mais je ne sais pas si vous avez vu Seinfeld.
Seinfeld, c'est la légende, référence.
En France, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu Seinfeld.
Ah, chez les connaisseurs, ça reste
chez les connaisseurs, oui. Mais le grand public, tu leur dis Seinfeld, ils font c'est quoi? Et je suis là à chaque fois, non mais il faut regarder. J'ai regardé les 9 saisons, mais sans mentir, en 3 semaines, quoi. J'étais hypnotisée, c'est à mourir de rire. Enfin, avec 3 fois rien, ils arrivent à te créer des situations complètement absurdes. Donc c'est bien sûr c'est 4 New-Yorkais qui vivent, enfin qui sont amis à New York du coup, ouais. Mais contrairement à Friends, ils sont pas gentils quoi. Et donc c'est ça qui est drôle et qui donne lieu à des quiproquos horribles. Enfin non, j'adore cette série.
Les recommandations culturelles.
De quoi de neuf? Alors, moi, en recommandation, je voudrais parler d'une série qui s'appelle Killing Eve. Alors, attention, c'est une exclue, ça vient tout juste de sortir. Il y a eu un épisode et c'est le grand comeback de quelqu'un qu'on aime beaucoup qui s'appelle Phoebe Waller-Bridge à l'écriture, qui est aussi responsable de la série Fleabag. Qui était une série super, avec un personnage de femme qui est complètement... à la dérive, comme le disent les grands cinéastes. Et là, pour le coup, Killing Eve, ça n'a rien à voir, puisque c'est un thriller. C'est avec Sandra Oh, qui jouait dans Grey's Anatomy, Christina Yang, qui joue le rôle d'une employée du MI5, donc c'est l'agence de sécurité anti-espionnage britannique. Et en fait, il y a des crimes qui sont commis et elle est obsédée par les femmes qui tuent. Chez elle, elle a plein de livres sur ça et tout. Et là, elle est convaincue que c'est une femme qui commet ces crimes. Et donc, elle fait plein de trucs, en fait, qu'elle n'a pas le droit de faire pour essayer de retrouver cette femme. Et tout le monde lui dit, mais non, c'est un homme, arrête de te poser des questions. Et en fait, il se trouve que c'est une femme. Et donc, c'est une jeune blonde. Et on la voit, en fait, faire recevoir des cartes postales et après commettre des crimes à Paris, en Bulgarie, en Italie, en Toscane. Enfin, et c'est vraiment, je pense, ça va vraiment être un face-à-face entre ces deux personnages de femmes assez opposées. Et ce qui m'a vachement touchée aussi, c'est que Sandra Oh, elle a donné plusieurs interviews en disant qu'elle avait attendu un rôle comme ça depuis 4 ans, quoi. Depuis Grey's Anatomy, où elle a obtenu des nominations aux Emmy, où elle avait vraiment un rôle hyper, hyper fort, hyper important, un rôle d'une femme asiatique qui était un médecin super badass, qui acceptait pas qu'on lui parle mal, qui voulait être la meilleure et tout. Et c'était vraiment une espèce de... Enfin, une représentation qu'on n'avait pas beaucoup, même l'habitude de voir, même dans les séries américaines. Et là... Elle disait, après Grey's Anatomy, je me suis dit, je vais avoir des rôles intéressants. Et j'ai rien eu, quoi. Et j'ai attendu 4 ans parce que je voulais pas revenir à jouer des rôles, des seconds rôles de femmes asiatiques soumises et tout. Et là, quand j'ai vu ce rôle-là, je me suis dit, bah, j'ai attendu 4 ans, mais en fait, ça valait le coup, quoi. Et elle est super. Dans la série, elle est vraiment super. Et donc, même s'il y a qu'un épisode, regardez l'épisode, soutenez la série. Je veux que ce soit un carton et que ça continue parce que c'est trop bien. Voilà.
Bah moi je vais parler d'American Horror Story, parce que vous en avez jamais parlé dans la newsletter.
Ouais, je crois qu'on regarde pas Clémentine et moi.
Non. Alors que, pour le coup, la dernière saison traitait à fond du féminisme. Donc bon,
C'était celle avec les sorcières? Non.
Non, oh là, c'était celle sur Donald Trump.
Attends, il y a eu un American Horror Story Donald Trump?
Ouais.
Ah, alors, pourquoi j'ai pas regardé?
En fait, je comprends pas pourquoi cette série n'est pas au cœur des préoccupations de tous. Sûrement parce qu'elle est glauque et répugnante. Donc ouais, il y a eu combien? Alors, je veux pas me tromper, il y a eu 7 saisons. Moi, j'ai vu toutes les saisons. Ce que j'ai adoré, moi, c'était la première saison. En fait, chaque saison, ça prend un truc un peu... Ça se passe dans un milieu différent, hyper gore. Donc, la première, c'est une maison hantée. La deuxième, c'est un hôpital psychiatrique. Il y en a une dans un hôtel.
Et il y en a une qui s'appelle Coven avec des sorcières. Exactement. Celle-là, j'ai failli la regarder, puis je me suis dit, ah, mais ouais. Je sais pas.
Et donc, le dernier, c'est sur Trump. Et c'est donc élection de Trump. Et t'as un couple de lesbiennes ultra-féministes et caricaturales dans la série. Mais c'est une série d'horreur, encore une fois, donc ouais. C'est peut-être pour ça qu'elles sont aussi caricaturales, qui combat un gourou, voilà, qui suite à l'élection de Trump sème la terreur sur la ville en faisant régner l'insécurité, tout ça.
Voilà. Kiyoon.
Oui. Alors moi j'ai envie de parler de séries. Il y en a une qui évidemment tout le monde connaît, c'est Jessica Jones sur Netflix.
Ah oui, la saison 2.
Mais attends, mais ça c'est la folie.
Comment allez-vous prouver l'existence de cet asservisseur des consciences,
Jessica?
Je suis détective privé. Je suis pleine de ressources.
Ben oui, non, mais c'est de toute façon, moi, je trouve que ce truc est fantastique et je trouve que c'est extrêmement drôle. Je trouve que elle te balance, ouais. Mais elle est énorme, quoi. Ouais. Elle est tellement badass, elle est géniale. Moi, je l'adore. Elle, d'accord. C'est mon héroïne, quoi. Ouais. Alors, parce que tout le monde a parlé de Wonder Woman en disant l'an dernier, ah, c'est là. Alors, c'est très bien, Wonder Woman. Moi, j'ai adoré, etc. Mais franchement, elle envoie, quoi.
Allô?
Allô?
T'as une question?
Quoi de meuf vous écoute?
Alors, cette semaine, on a reçu la question de Florence, qui nous écrit.
Bonjour, je suis belge, architecte d'intérieur indépendante de 31 ans. Mon conjoint bosse dans une grosse entreprise française qui m'a plusieurs fois présenté comme mettant la femme en avant, par exemple en créant des événements à thème, Women Forward, des systèmes de quotas, tant de femmes responsables par secteur, tel poste, crèche dans l'entreprise, mise en avant de la mixité. Mon conjoint est un homme assez ouvert, il n'a aucun problème de participation dans les tâches ménagères, il en fait presque plus que moi. Il me laisse avancer dans ma carrière professionnelle comme je le souhaite, en gros, aucun problème à signaler. Par contre, il a eu des propos très étonnants par rapport aux initiatives de son entreprise envers les femmes. Ouvrez les guillemets. C'est avantageux d'être une femme dans mon entreprise car celles-ci peuvent évoluer beaucoup plus facilement que les hommes. C'est une entreprise dans un secteur masculin avec peu de femmes, et grâce au système de quotas, certaines femmes obtiennent des très beaux postes non mérités. Je me pose plein de questions. Ces femmes ont-elles vraiment un poste beaucoup trop élevé? Est-ce de la jalousie mal placée? Une femme qui réussit trop bien, ça dérange beaucoup d'hommes? Même si celui-ci paraît tout à fait ouvert sur l'égalité femmes-hommes? Si c'est vrai que certaines femmes ne méritent pas ces postes élevés, pourquoi l'entreprise leur donne-t-elle? S'achète-t-elle juste une jolie éthique?
Alors, Florence, Dans ta question, on sent que t'es pas vraiment d'accord avec ton mec, mais que t'arrives pas tout à fait à savoir pourquoi. Alors, je pense que une des pistes, c'est parce qu'il part du principe que les femmes et les hommes sont égaux face au milieu d'entreprise, ce qui en fait n'est pas la réalité, malheureusement. Quelques chiffres, même si les filles réussissent mieux à l'école que les garçons, les femmes représentent seulement 17% des dirigeants salariés des sociétés en France. Selon le site égalité-femmes-hommes.gouv.fr, donc une source sûre, 97% de PDG et 85% de membres exécutifs sont des hommes en France. 97%, ça veut dire qu'il y a 3% de femmes PDG en France. C'est juste pour remettre les choses. Et à poste égal, même élevé, il reste toujours 20% d'écart salarial en défaveur des femmes. Et ça, c'est l'INSEE. Donc ça, c'est des données, c'est les faits. Donc si ton mec pense que les hommes et que les femmes ont les mêmes chances d'embauche, les mêmes chances de salaire et d'évolution dans l'entreprise, du coup, c'est normal qu'ils trouvent que les initiatives pour promouvoir les femmes sont inégalitaires. En fait, il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme ça, parce qu'eux ne sont pas discriminés dans une situation donnée. Les autres, du coup, bah, ils ne le sont pas vraiment, ils n'arrivent pas à concevoir. Donc, ton mec, il peut participer aux tâches ménagères et te laisser évoluer dans ta carrière. Bon, en 2018, c'est quand même la moindre des choses. Mais surtout, ça ne l'empêche pas de porter des croyances sexistes en lui. Par exemple, pourquoi il parle des crèches d'entreprise comme un truc qui bénéficie aux femmes, alors qu'en fait, on élève normalement des enfants à deux, dans une famille, à plusieurs. Aux dernières nouvelles, un enfant, ça s'élève pas tout seul, quoi. On peut toujours, du coup, je pense, évoluer dans sa réflexion. Il y a aussi un sexisme assez virulent dans le fait de dire que évoluer professionnellement, c'est plus facile pour les femmes, parce qu'on serait plus tendre avec elles, parce qu'on leur met des quotas, qu'on leur organise des conférences. Sous-entendu, si elles étaient soumises aux mêmes conditions que moi, ben, elles réussiraient pas, quoi. C'est aussi sexiste de penser qu'elles ont de la chance, parce qu'elles peuvent profiter de ces leviers pour obtenir un poste élevé. Sous-entendu, les femmes, elles sont incompétentes de base, et celles qui ont un poste élevé, c'est elles sont arrivées, mais par erreur. Il faut vraiment chercher le sens de ce qu'il dit. Dans les faits, l'élément le plus déterminant dans l'évolution dans l'entreprise, ça reste la cooptation, c'est-à-dire le fait d'être pris sous son aile par un boss qui retrouve ses valeurs et son style en nous. Et comme la plupart des chefs dans les entreprises en France sont des hommes blancs d'âge moyen, ils sont souvent amenés à coopter des gens qui leur ressemblent, d'où un cercle vicieux qui est tout sauf naturel et encore moins égalitaire. Du coup, on se retrouve avec une majorité de responsables, directeurs, chefs masculins qui se connaissent et s'entendent bien et se retrouvent autour de sujets communs excluants, la fameuse équipe de corporate. Mmh. Et en plus, ils gardent une distance avec les femmes parce qu'elles ne peuvent pas s'intégrer à ce système. Je tiens à souligner qu'on trouve plein d'hommes incompétents à des postes à responsabilité qui sont très bien payés. Personne ne vient leur dire qu'ils sont là parce qu'ils sont des hommes et qui, du coup, ils ont été favorisés. Bon, sauf nous, les féministes, mais c'est une autre histoire. Le problème, c'est du coup pas l'entreprise qui met en place des initiatives pour équilibrer une situation discriminante pour les femmes. C'est la société dans sa globalité et la place qu'elle assigne aux femmes qui travaillent et ce qu'elle attend d'elles. En fait, tu demandes à un moment, Florence, si une femme qui réussit trop bien, ça dérange beaucoup d'hommes. La réponse est oui, un grand oui, parce qu'on vit dans un système sexiste qui a décidé que le statu quo pour les femmes, c'est la subordination.
Bravo.
Et on brûle toute notre cité.
D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe sur les plateaux de stand-up, quoi.
Ouais.
Beaucoup. Les mecs s'invitent entre eux dans les plateaux, bah quoi, ouais, parce qu'ils sont tous potes.
Et ça, c'est un facteur qu'ils ne voyaient pas du tout. Ils disent, bah attends, on est complètement égalitaires dans notre manière de faire. Bien sûr. Ouais. Bon, sur ce, les filles, c'est la fin de notre émission. Merci d'être venues à toutes les deux.
Merci, Mélanie.
Kiyoon, on peut te retrouver sur scène au Théâtre du Gymnase Maribel à Paris, c'est ça?
Exactement. Tous les samedis 19h et tous les dimanches 17h30, Tropique du Panda, au Théâtre du Gymnase. Je vous attends.
Toi, Anne, c'est au Délice Bar, c'est ça qu'on peut te voir?
Oui. Mélanie, est-ce que tu crois qu'on va avoir des trolls masculinistes maintenant?
Alors, ah oui, j'ai oublié de le dire, mais on a reçu un mail sur notre adresse mail, quoi de meuf, d'un mec qui nous a envoyé des photos de ses fesses.
Ah,
alors,
oui.
J'ai pas compris, quoi.
Plaisir d'offrir.
J'ai hésité, j'ai dit, est-ce que j'envoie une réponse? Et puis j'ai effacé.
Ouais, c'est mais classique, voilà. Ça.
Mais bon, enfin, tu vois, à partir du moment où t'as des trolls, c'est que t'as du succès. Donc.
C'est ça. Ouais. Donc oui, après, donc, ces propos tenus aujourd'hui n'engagent que moi, hein, bien sûr, pas tout le Love Steady Crew, où nous sommes quand même trois femmes, donc ça c'est très cool, et après 4-5 hommes, enfin c'est quasi paritaire, franchement.
Il y a des jours où on peut vous retrouver.
Et ouais, voilà, alors l'idée c'est que c'est 3 mercredis par mois, sauf le premier mercredi du mois, c'est dans un bar qui s'appelle le Délice à Gare du Lyon. Le mieux c'est d'aller sur Facebook et vous tapez Love, comme les rires, Steady, S-T-E-A-D-Y, Crew.
On va mettre
voilà. Ça sera plus simple. Et moi, sinon, sur Facebook, je m'appelle Anne Dupin, D-U-P-I-N.
Ok.
Voilà.
Ben merci à vous et à dans 3 semaines.
Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Vous pouvez nous retrouver chaque dimanche dans la newsletter Quoi de Meuf. Abonnez-vous sur quoidemeuf.net si ce n'est pas déjà fait.
Et vous pouvez aussi aller sur Apple Podcast et nous laisser une note, 5 étoiles de préférence, ce serait super. On est aussi sur Twitter et Instagram, sur @quoidemeuf. Et on se retrouve au prochain épisode.
Bye girl.
Girl, bye.
Quoi de Meuf est une émission de Clémentine Gallo et Mélanie Wanga, produite par Nouvelles Écoutes, avec à la réalisation sonore Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Maxime Olivier, au montage et au mixage Laurie Galigani.